comme les brillants entrepreneurs, épargnez chez Suno Assurance pour garantir le financement de vos projets. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Accès aux soins, urgences surchargées, inégalités territoriales, surmenage des soignants, découragement, disponibilité. Les problèmes qui touchent le secteur de la santé en France font régulièrement la une des journaux. Lorsqu'un hôpital ferme, lorsque des personnels se mettent en grève, voire en grève de la faim, lorsque sur son lieu de travail, un professionnel de santé commet l'irréparable, on entend le ras-le-bol des usagers face au délai pour consulter un spécialiste, des préoccupations concrètes, récurrentes, objectives. Et pourtant, à l'origine, aucune des 35 questions posées par le chef de l'État aux Français dans sa lettre, initiant le grand débat, aucune de ces questions ne mentionnait explicitement ces enjeux de santé. Aucune trace non plus de ce dossier dans les intitulés des thèmes proposés sur le site internet du gouvernement. Mais cela n'a pas découragé ni les usagers, ni la communauté des soignants pour s'emparer du sujet, pour pointer les besoins. Des débats se sont organisés dans des hôpitaux où l'on a pu entendre les différents métiers s'exprimer, raconter ce qu'ils vivaient, exemples à l'appui. Le débat s'achèvera dans les prochains jours. Et pour cette thématique, comme pour les autres, la question repose à présent sur la traduction qui sera faite demain de cette expression publique et donc de son utilité concrète. La santé dans le grand débat national en France. Quatre invités sont aujourd'hui avec nous en studio. Docteur Sophie Crozier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue au service des urgences cérébrovasculaires de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Delphine Soubeste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière en chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Avec nous, le docteur Bertrand Galichon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes praticien hospitalier aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. On retrouve également autour de cette table Alain-Michel Serretti, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes président de France Assos Santé, Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé. Débat national lutte aussi au niveau local tout à l'heure. On va rejoindre à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine Nathalie Lemaître, infirmière aux urgences de l'hôpital Brousset. Une partie du personnel y est en grève depuis le mois de janvier dernier.
Priorité santé sur RFI.
Alors avant bien sûr d'aborder ce qui est ressorti de ces échanges, de ce grand débat dans le domaine de la santé, juste pour bien situer la nature du constat des critiques, en particulier sur le service public hospitalier, il ne s'agit pas du tout de brosser un tableau catastrophiste. Je dis ça bien sûr parce que pour une grande partie de nos auditeurs, le système de santé français, ça reste un modèle, voire un but à atteindre. Alors dans ces débats, il est question avant tout du maintien de la qualité, de comprendre pourquoi il y a malaise, pourquoi il y a des inquiétudes qui sont bien réelles, tant du côté des professionnels que des usagers. Docteur Sophie Crozier pointait certaines dérives, certains risques aussi pour demain, pour un service public hospitalier qui demeure, on va insister sur ce point, qui demeure de très grande qualité.
Oui, tout à fait. Les raisons pour lesquelles moi j'avais eu l'occasion de m'exprimer fin décembre, c'était un ras-le-bol parce que on est dans une situation qui est effectivement extrêmement difficile, alors même qu'on a un service hospitalier public français d'excellente qualité, avec des soignants hyper motivés, très impliqués, des moyens qui sont relativement importants, mais on voit effectivement ces dernières années, et en particulier ces derniers mois, tout ce système se désintégrer progressivement avec... quand même, dans un certain nombre de cas, une perte de chance pour les patients. Et ça, c'est absolument intolérable, évidemment, pour les patients, mais également pour les soignants qui se sentent dans des situations extrêmement difficiles parce qu'ils n'arrivent pas à mener à bien leur mission.
Alors, c'est pas parce qu'on a des moyens que ça nous empêche de nous interroger sur ce qui est en train de se passer. Soins de qualité, formation de qualité aussi. Malgré tout, quête de sens, c'est vraiment ce qu'on entend, ce qui ressort du côté des débats. On a pu voir s'exprimer une grande communauté, les personnels, les usagers, médecins, infirmières, patients. Docteur Sophie Crozier, alors vous avez été à l'origine de l'un des débats dans l'hôpital au sein duquel vous exercez, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. D'abord sur cet exercice en tant que tel, cette communauté de parole, est-ce que c'était quelque chose d'inédit? Est-ce que ça se fait comme ça, différents corps de métier, y compris d'ailleurs les usagers, se retrouver dans un lieu, dans un cadre et échanger?
Alors non, pas du tout. Et justement, je pense qu'une des grandes réussites, parce que bon, il y a eu sans doute des difficultés, tout n'était pas parfait dans l'organisation de ces débats, mais ce qui a été vraiment plébiscité par la majorité des participants, c'était ce moment, cet espace de parole, notamment entre les soignants. Alors, ce qu'on a pu regretter dans les difficultés, c'est qu'on a eu assez peu de citoyens, mais on n'a pas pu faire suffisamment d'informations, de publicité de ces débats. Et puis, il nous semblait déjà important de pouvoir réunir effectivement tous les corps de métier de l'hôpital, enfin la majorité des corps de métier de l'hôpital, et on a pu échanger effectivement sur les constats, et aussi surtout, alors nous c'est ce qu'on avait mis en place particulièrement à la Pitié, mais sur des propositions. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé vraiment très positif moi dans cet exercice, c'est qu'il y a eu un certain nombre de propositions, 40, ensuite on a voté ces propositions, on était 226, donc ce qui était quand même une réussite relativement importante, parce qu'on a eu à peine une semaine pour pouvoir communiquer au sein de notre groupe hospitalier sur l'information de ce grand débat. Mais ça a été un exercice qui a été vraiment intéressant et très... Enfin, beaucoup de soignants ensuite, d'ailleurs, se sont exprimés et l'ont dit, étaient vraiment heureux et aimeraient que ça se poursuive. Et je pense que c'est ce qu'on organisera. En tout cas, moi, je m'y suis engagée sur mon groupe hospitalier.
Alors, sur cet espace d'expression, je vais vous demander tour à tour de dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez d'abord participé à certains des débats? Et qu'est-ce que vous avez perçu, Alain Michel Seretti, vous, en tant que, on peut dire, porte-parole des usagers?
Alors oui, évidemment, on a non seulement participé, mais initié un certain nombre de débats en région. Le grand public sur les sujets de santé, la préoccupation numéro un, en ville comme à la campagne, c'est de trouver tout simplement un soignant. Alors que ça soit un exercice en ville pour trouver un médecin généraliste, pour trouver un ophtalmologue parce qu'on doit refaire ses lunettes, des choses basiques, ou d'avoir accès de façon raisonnablement proche ou éloignée de chez soi à un établissement, qu'il soit public ou privé, un établissement de soins qui puisse nous prendre en charge. Et je précise, d'avoir les moyens de transport en local, qui soit adéquate, parce que là, on va vers probablement un éloignement des structures de haute qualité pour l'ensemble des Français, puisqu'on va créer des hôpitaux de proximité, qui c'est certainement une bonne chose, et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, et de façon tout à fait maladroite, Emmanuel Macron n'a pas intégré les questions de santé dans le grand débat, parce que on est en cours actuellement, il va y avoir un débat au Parlement sur une loi santé qui a été initiée en octobre dernier.
Dans le courant de la semaine.
Oui, mais pour autant, le sujet numéro un des Français, c'est simplement d'avoir un accès à un médecin, à un soignant qui puisse les prendre en charge. C'est pas la télémédecine qui va régler le problème, c'est certainement remettre du temps de soignant au sein des territoires.
Alors le temps, c'est aussi une question cruciale. Docteur Bertrand Galichon, on vous a invité pour parler des urgences, ces urgences qui reviennent régulièrement à la une, pour deux grandes raisons, on va dire, pour schématiser. D'abord parce que dans certains services, on est débordé, il y a une très forte attente et puis les personnels n'arrivent plus à faire face, avec à la clé des accidents qui restent rares, mais qui existent malgré tout. Ces urgences, elles ont aussi donné de la voix pendant ce grand débat?
Alors, je peux pas vous répondre à la question précisément de savoir si les urgences ont donné de la voix pendant ces grands débats, pour une raison bien simple, c'est que je devais participer au débat qui est organisé sur mon groupe hospitalier, donc Saint-Loup-Larry-Boisière, et à la dernière minute, déficit de médecin, j'ai pas pu me présenter, enfin participer à ce débat. Voilà, bon, ça c'est anecdotique. Ceci étant dit, je crois que les urgences sont le point de cristallisation de toutes les difficultés que l'ensemble du système de santé rencontre, que ce soit en ville, à la campagne, à l'hôpital ou ailleurs. D'accord. Donc c'est un point de convergence qui rassemble, récolte toutes les fruits des difficultés, difficultés extérieures. L'autre point qui me paraît important, c'est il y a une question de sens qui je pense qu'on y reviendra, mais qui me paraît absolument fondamental et premier dans toutes les difficultés que nous pouvons les uns et les autres rencontrer.
C'est-à-dire donner du temps de soins, du temps aux patients.
Il y a un hiatus important et de plus en plus important entre les modes de gestion du système de santé Et l'aspect engagement, vocation dans nos professions diverses. D'accord ? Médical, paramédical, administratif ou ce que vous voudrez. Et donc là, il y a un hiatus qui est de plus en plus important. Et donc, il y a une fracture qui s'installe.
Une définition du sens véritable de ce que l'on fait de son exercice.
Oui.
Par rapport aux contraintes.
Oui, et puis il y a, si on va un peu plus loin, je pense qu'il faut revoir toute la formation des professionnels.
Donc on va beaucoup plus loin. Rassemblement en tout cas de cette communauté Delphine Soubest. Est-ce que vous avez eu l'impression que certaines barrières sont tombées pendant ce débat ? On a justement partagé, échangé, ou finalement les choses sont restées figées, sans schématiser ? Par exemple, entre infirmières et médecins, on a pu vraiment s'entendre et apprendre de nouvelles choses, ou finalement on a été conforté dans ce que l'on savait déjà ?
Alors je sais pas si on a laissé la voix aux infirmières, moi j'ai pas l'impression. Après, entre professionnels de santé, nous on en a discuté à mon niveau dans mon service, mais je trouve que c'est dommage de pas justement porter la voix pour les infirmières. Je pense qu'il y a une souffrance des infirmières. Il parlait des urgences, justement, bah les infirmières, elles ont un quota de patients aux urgences ou même dans les autres services, il n'y a pas de loi sur le quota de patients qu'on a par infirmière dans les services, et ça c'est important. C'est-à-dire qu'aux urgences, elles peuvent avoir des malades qui peuvent être surveillés minutieusement, et elles ont 10 malades peut-être, et elles peuvent pas surveiller ces malades minutieusement, comme il n'y a pu arriver aux urgences le souci qui est arrivé il y a quelques mois. Moi en service aussi, je suis en chirurgie cardiovasculaire, je peux avoir des malades qui vont être techniqués, qui vont avoir plein de dispositifs. Je peux en avoir 3, 4, 5 sur les 9 malades que je vais avoir. Et bah, c'est pas normal que ça soit le même quota de patients en médecine et en chirurgie.
Docteur Sophie Crozier, justement sur ce point de vue précis, est-ce que beaucoup de personnes se sont exprimées sur le fait que ce qui était demandé ne correspondait pas à la réalité du métier, à la réalité des soins ?
Oui, alors il y a eu beaucoup. Alors nous, dans notre groupe hospitalier, dans le débat, il y a eu une expression très importante des soignants. Dans les 226 personnes, il y avait 121 soignants. C'était principalement des infirmières, quelques aides-soignants, des assistantes sociales, des psychologues, des kinésithérapeutes. Bon, voilà, mais c'était principalement en fait en réalité des infirmières qui. Alors on avait mis un mode aussi assez particulier. On avait fait un travail en petits groupes, donc du coup il y a eu même des porteurs de sujets qui étaient, enfin la moitié d'ailleurs quasiment, qui étaient des soignants sur les 25 groupes de travail qu'on a mis en place. Bon, enfin voilà, toujours est-il qu'effectivement, pour répondre à votre question sur cette inadéquation effectivement entre les moyens et les missions, oui, ça a été signalé. Ce qui a été beaucoup signalé aussi, c'est les difficultés qui sont rencontrées, c'est-à-dire effectivement qu'il y a des moments où on se retrouve, les infirmières se retrouvent avec 16 au lieu de 8 patients, donc parce qu'il manque du personnel, avec à faire 16 heures d'affilée parce qu'il n'y a pas de relève, etc. Donc ça a été dit, avec des glissements de tâches aussi. Donc ça a été très fortement. Enfin là, moi j'ai fait la synthèse ce week-end pour vous dire exactement sur tout ce qui a été dit à la pitié, mais c'est ce qui a récolté finalement le plus grand nombre de voix parmi les personnes qui étaient là et qui ont voté. C'était la question de bien recentrer les compétences et les expertises par rapport aux besoins et aux missions des services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand souci quand même auquel on est confronté, et ça n'est pas possible dans une médecine qui est de plus en plus technique, c'est qu'on met des soignants comme s'ils étaient interchangeables. Ça n'est pas possible. Ils ont des compétences de plus en plus fines, c'est super important en fait que ces personnels soient au bon endroit. Et ça a été très largement dit, et une reconnaissance des expertises. Et dernier point, revalorisation aussi à la fois humaine et financière. Quand on a des expertises, il y a des gens qui sont en train de se former sur ce qu'on appelle des pratiques avancées. Il y a un engagement du ministère qui est une revalorisation salariale. C'est pas possible autrement. Il y a pas tellement d'autres situations où quand on demande aux gens de faire des études supplémentaires, on les paye pas en échange.
Oui, vous voulez réagir, Delphine Soubest.
Je pense qu'une infirmière, après 15 ans d'expérience comme moi, qui gagne à peine 2000 euros, c'est pas normal.
Il faut donner aussi des chiffres pour avoir une idée de ce que ça représente exactement. Alors, vous vouliez aussi réagir, Alain-Michel Cerretti, sur ce point précis.
De ce point de vue-là, il n'y a pas l'ombre d'une feuille de papier entre les revendications légitimes des professionnels de santé, ce qu'en pensent les malades et les usagers. Parce que quand vous passez à l'hôpital, vous voyez les conditions absolument déplorables de travail des professionnels de santé. Quand je dis déplorable, c'est pas que il y a pas de scanner qui fonctionne, enfin qu'on soit bien clair, le matériel en général fonctionne et fonctionne bien. Simplement là où il faudrait 5 personnes, il y en a 2. Là où il en faudrait 10, il y en a 3. Et les meilleurs jours parce que de temps en temps c'est 2. Et donc la variable d'ajustement, c'est l'engagement des professionnels de santé, mais le don de soi a une limite, c'est la limite physiologique. Moi, je suis en relation avec, notamment à la Salpêtrière et dans d'autres établissements de la PHP, avec des soignants qui n'en peuvent plus et qui nous témoignent du fait qu'ils mettent en danger la vie des patients, notamment dans des services très lourds de réanimation, parce que lorsque vous êtes 5 pour faire le travail de 10, même si vous déjeunez pas, même si vous faites pas la pause pipi, arrive un moment, de toute façon, vous mettez en danger les personnes. Et donc la question du sens est fondamentale, et elle tourne finalement autour de la valeur du soin. C'est quoi la valeur d'un soin ? Et aujourd'hui, en France comme ailleurs, mais surtout en France, on a créé un totem dans les années 2003 qui a considéré à donner une valeur identique à un soin, et quelle que soit la qualité de ce soin et le service médical rendu. En d'autres termes, on vous pose une prothèse de hanche à l'hôpital de la Salpêtrière, puisqu'il y a un excellent service d'orthopédie, que vous remarchiez ou pas, l'hôpital sera payé de la même façon. Et donc finalement, l'intérêt à agir n'est que le volume et absolument pas la qualité en tant que service médical rendu. Et vous et moi, madame, si nous allons nous faire demain poser une prothèse de hanche, qui manquera pas sur le plan statistique, il y en aura un ou deux qui aura une prothèse de hanche vers l'âge de 75 ans.
Je vous laisse.
Ce qui, ça dépend, vous savez, si de temps en temps, il vaut mieux accepter la prothèse que de vivre avec un déficit fonctionnel jusqu'à la fin de sa vie. Si la qualité de la pose de la prothèse, qui sera payée par la sécurité sociale, fait en sorte que vous puissiez remarcher à 3 mois, alors que moi, de mon côté, je vais me faire poser une prothèse que je pourrais pas marcher avant 1 an parce qu'il y a pas de rééducation organisée autour de moi, de soins de suite, et que finalement l'intérêt de l'hôpital n'est pas de savoir si je vais remarcher. L'intérêt de l'hôpital, c'est de savoir s'ils vont faire les 300 prothèses de hanche dans l'année. Et donc, quand vous dites ça à un médecin, le toubib, lui, il n'a pas fait 10, 12 ans ou 13 ans d'études, et l'infirmière non plus, pour simplement proposer du volume. On n'est pas un supermarché du soin.
Parcours de soins loin du commerce, illustration en tout cas de ces débats. On va voir comment ça s'est passé à la Salpêtrière, le 19 février dernier. Débat donc sur l'hôpital public, plus de 200 personnes sur place. Hein. Docteur Crozier, vous me corrigez si je me trompe. 3 heures d'échange, d'ailleurs, c'était à vous la parole pour ouvrir les débats.
Bonjour, bienvenue à tous et félicitations de votre mobilisation. Nous tenions à vous rappeler avec Béatrice le rôle des animateurs qui doivent rester totalement neutres. Nous, en tant que garants, nous ne prenons pas la parole, nous ne sommes pas là pour participer au débat. Nous irons toutes les deux, chacune notre tour, dans d'autres débats où nous ne sommes pas garants, pour pouvoir apporter aussi notre parole. Le plus important, c'est que quand nous allons prendre la parole, vous disiez votre fonction. On n'a pas besoin de connaître vos noms. Bonne séance de travail, une bonne séance de communication à tous. Et puis, j'espère que ce sera très fructueux.
Avant de commencer, ce qui nous intéresse, et c'est vrai que c'est impressionnant de voir autant de monde, c'est finalement, mais pourquoi vous êtes venu faire ? Qu'est-ce qui vous a mis en mouvement ? Donc on va vous proposer quelques minutes avec votre voisin, si vous ne le connaissez pas, pour vous présenter, dire qui vous êtes, vous exprimer sur pourquoi vous êtes venu cet après-midi, et ensuite on passera les micros pour entendre ça.
Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes venu assister aujourd'hui au grand débat sur l'hôpital public ?
En tant qu'infirmière, j'exerce maintenant depuis presque plus de 6 ans. Ça fait des années en fait que l'hôpital est en train de mourir, que ce soit au niveau de la rentabilité. Et nous, en tant que soignants, surtout en tant qu'infirmiers, on aimerait pouvoir dire ce qui va pas. En fait, le patient, il n'est plus du tout au centre du soin. Il n'est plus du tout pris en charge correctement par un manque d'effectifs, par un manque de valorisation des soignants, ce qui n'est pas normal parce qu'on ne sait pas où va l'argent, on ne nous répond pas. Et c'est vrai qu'il y a un découragement parce qu'on n'est pas écouté en fait en tant que soignant. Puis même, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la pénibilité du travail. Il y a des effectifs où on est dans des services où on n'est qu'une infirmière pour 15 patients. C'est pas possible. On peut pas prendre en charge correctement quelqu'un. Pour moi, la prise en charge maintenant, elle est devenue virtuelle à cause des logiciels, à cause des médecins qui sont de plus en plus absents dans les services parce qu'on leur demande d'aller à des congrès, d'aller donner des cours, de prendre en charge de manière administrative et ça assomme en fait les gens. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui.
Marie arrive.
Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont évoqués, qui ont été votés, qui vous parlent particulièrement lors de cette assemblée ?
Alors moi, je suis usagée des services de l'hôpital. J'ai eu plusieurs hospitalisations un peu d'urgence. Et quand je sors, je me retrouve souvent à la maison, un peu démunie, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le lien qu'il existe entre l'hôpital et la médecine de ville est un peu compliqué, je trouve, dans son rapport aux patients.
Qu'est-ce que vous espérez obtenir en venant assister à ce débat ?
Comprendre déjà un peu les difficultés de l'hôpital actuellement et puis voir s'il y a une volonté effectivement d'accompagner un usager dans son parcours de soins. Parfois, je vois mon médecin de ville qui téléphone, qui passe un temps fou à essayer de téléphoner, coordonner. Je vois qu'il est un peu seul et je vois toute l'infrastructure qui existe dans un hôpital et les difficultés parfois à faire passer l'information.
Parole d'usagère, parole d'infirmière. Question de santé finalement, j'ai dit tout à l'heure en introduction, docteur Sophie Crozier, qui n'était pas formellement énoncée ni dans la lettre du président Macron, ni dans les thèmes qu'on retrouve quand on va pianoter sur Internet pour voir toutes ces questions posées sur le grand débat. C'est pas dans les grands intitulés. On retrouve ça sous les pages services publics. Ça vous a surpris, ça vous a étonné, voire choqué?
Ça m'a pas vraiment surpris parce que finalement le contexte du grand débat est quand même né de la crise des gilets jaunes, que c'était des revendications qui étaient des revendications tout à fait légitimes et assez individuelles et que là en fait les revendications actuelles des usagers et des soignants, c'est plus, j'allais dire, des revendications collectives en fait. Et donc je pense que effectivement il y avait un petit hiatus. Moi ça m'a pas tant étonné que ça y soit pas. Par contre oui, ça m'a choqué parce qu'il me semble que dans le service public, il y en a deux qui sont absolument essentiels et qui effectivement ne figuraient pas dans les thèmes du grand débat, qui étaient évidemment la santé et également l'éducation. Enfin, je veux dire, ça reste quand même des services publics essentiels. C'est ce qui fait aussi l'image de notre société. Et voilà, donc oui, ça par contre, c'est aussi pour ça qu'on s'est mobilisé, parce que ça nous semblait absolument essentiel et que c'était l'occasion de le faire.
Tour de table, docteur Bertrand Galichon, cette absence dans l'énoncé initial, et en tout cas, on va dire, la correction qui a été faite de cette communauté de la santé en France, de s'imposer d'une certaine façon, parce que c'est aussi une question essentielle.
Moi, ça m'a pas trop surpris. Mais quand vous regardez les quatre grands thèmes qui sont proposés, vous voyez bien que la santé peut s'intégrer dans chacun des quatre débats et de façon assez forte. Voilà. D'autre part, si vous remontez un peu dans l'histoire, il me semble qu'un jour il y a eu une constitution de gouvernement et le jour de cette constitution de gouvernement, il n'y avait pas de ministre de la Santé et qu'elle a été nommée bien après. Donc la santé fait partie un peu des profits et pertes et joue le rôle de la valeur d'ajustement, alors que c'est une demande forte de nos concitoyens d'avoir une santé qui se tienne.
Alain Michel Serretti, est-ce que finalement la santé en France, c'est tellement évident que finalement on demande pas plus parce que c'est déjà là et on se rend pas vraiment compte que ce qui est là, c'est pas forcément éternel?
Alors,
c'est pris comme un acquis?
Du côté de nos concitoyens, oui, c'est pris comme un droit et un acquis. C'est d'ailleurs un des sujets. C'est un droit et acquis et gratuit. Et du coup, on peut consommer du soin alors qu'on ne peut comme on veut, alors qu'on peut pas consommer, des produits de grande consommation comme on veut, puisque on les paye. Là, on les paye à travers des cotisations sociales, mais celui qui paye les cotisations sociales n'est pas forcément le consommateur, puisqu'on est dans un système complètement solidaire. La difficulté dans cette affaire, c'est que les questions de santé sont considérées par les politiques, et je parle des députés, des sénateurs, et évidemment de nos ministres et présidents de la République, qui en général général ne sont pas des soignants, comme trop compliqués, trop techniques et, par des mots, l'expression casse-gueule. Casse-gueule sur le plan politique.
Pas forcément quand on a un petit hôpital qui ferme dans sa commune.
Alors,
ou sur son territoire.
Chose. En général, là, on se mobilise pour un service dans lequel on n'enverrait pas soi-même sa femme ou sa fille se faire accoucher. Hein. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire. Bien souvent, c'est vécu comme un échec politique, le fait de devoir fermer un hôpital dans sa circonscription. On va considérer que le député n'a pas fait son boulot. La réalité, c'est qu'on peut pas, et ça, les Français vont commencer à le comprendre, parce que on voit des indicateurs de qualité commencer à pointer leur bout du nez, qui démontrent que tous les établissements font pas n'ont pas le même niveau de qualité sur un soin, et du coup il vaut mieux peut-être faire 10 km de plus pour avoir un niveau de qualité de haut niveau. Encore faut-il que les indicateurs de qualité et de services médicaux rendus, encore une fois, le sujet c'est ça, je suis prêt à faire 40 km de plus si petit 1 on m'explique pourquoi et petit 2 on me donne les moyens de transport. Et ça, c'est réellement un sujet politique qui n'est pas un sujet de soignant. Donc les politiques ne veulent pas aller sur les sujets médicaux, ils ne veulent pas aller se battre contre les médecins ou contre l'administration. On a donc du coup un entre-soi, pardonnez-moi, avec une ministre, en général le médecin, pas toujours, mais à 90%, une administration très médicalisée, et finalement c'est une boîte noire dans laquelle les professionnels se sentent pris au piège, c'est le cas, et le grand public n'arrive pas à comprendre comment essayer de trouver son chemin là-dedans, avec des politiques non médicaux, c'est-à-dire tous les députés qui sont pas médecins, qui ne viennent pas pendant les débats. Regardez les débats santé à l'Assemblée nationale, vous avez 50 députés, ce sont 50 médecins. Les non-médecins ne viennent pas. Et donc on est dans le entre-soi, alors que le débat devrait être extrêmement politique et très grand public. Moi, ce que j'espère, c'est que sur la loi santé qui est attendue, puisque finalement, cette histoire de gilets jaunes, de grands débats et la loi santé se télescope, hein, vraiment dans le même temps, on est réellement des propositions qui aillent dans le sens de la réorganisation des soins et de donner du temps de soins sur les territoires, avec un sujet absolument évident en 2018, c'est donner la parole aux usagers pour qu'ils expriment leur avis sur les soins qui leur ont été donnés. Vous verrez que les choses changeront, comme elles ont changé dans l'hôtellerie, comme elles ont changé dans le transport, lorsque les malades vont pouvoir s'exprimer sur les soins qui leur ont été donnés. Pourquoi le soin reste complètement imperméable, le monde du soin, à ce bouleversement mondial du numérique qui permet aux consommateurs, d'une façon générale, de pouvoir dire ce qu'ils en pensent. Eh bien, parce que c'est dit soin, on ne peut pas dire ce qu'il en pense. Du coup, le pire côtoie le meilleur, et que ceux qui donnent le meilleur, je parle des professionnels de santé, ne sont pas valorisés parce que le meilleur ne se valorise pas, et le pire n'est pas sanctionné parce que dans le monde médical, on sanctionne pas. Du coup, on ne sait pas ce qui se passe, vous-même, quand vous allez dans un établissement de santé, sauf à ce que votre mari ou un de vos parents soit médecin et connaisse bien le service, vous ne saurez pas entre les mains de qui vous confiez ce que vous êtes plus cher, c'est-à-dire votre enfant. Eh bien, ça, c'est plus envisageable, parce que nos sociétés aujourd'hui sont extrêmement demandeuses d'informations sur la qualité des produits et des services proposés, y compris dans les soins.
Alors, Delphine Soubet, je termine ce tour de table avec vous. On a parlé de cette loi santé qui se prépare donc au Parlement. On a parlé tout à l'heure des revalorisations, notamment des salaires. C'est une question essentielle. Pourtant, il n'était pas question de cette revalorisation dans cette loi. On entend les usagers dire « on aime les infirmières ». Depuis des années, on voit des infirmières derrière des banderoles. Elles demandent, on va dire, pas grand-chose. Ça pèse beaucoup dans un budget, mais c'est pas grand-chose. Mais du côté de l'augmentation des salaires, on ne voit rien venir.
Non, on voit rien venir. En plus, les infirmières, on a du mal à faire grève parce qu'on est tellement pas assez qu'on est réquisitionné. Donc, il y a toujours ce souci-là. L'indice de points, en plus, n'a pas été augmenté depuis 2016. Donc, effectivement, oui, la revalorisation, ça serait bien d'avoir un salaire plus important. Et puis aussi, la revalorisation de notre hiérarchie, enfin la reconnaissance plutôt de notre hiérarchie, ça serait bien. Moi, dans mon service, je l'ai. Je remercie moi mes supérieurs, mes cadres et mes médecins parce qu'ils reconnaissent quand on a du travail d'essayer de là de nous soutenir. Donc c'est bien. Après, je rebondis sur ce qu'a dit mon voisin sur effectivement, c'est un service qu'on rend quand on va au supermarché. On a la note et même si on ne paye pas à l'hôpital, même si on a une couverture sociale, ce qu'il faudrait aussi proposer dans le projet de loi, ça serait que les gens aient la note et leur facture, de savoir combien paye leur sécu et combien perd leur mutuelle, pour prendre en compte combien ça paye. Qu'on a un système de santé qui est important et qui est cher.
On parle de gratuité, mais tout ça, ça a un coût. Docteur Sophie Crozier, vous vouliez réagir sur ce point ?
Oui, et puis, alors effectivement, je pense que ça, c'est un élément majeur. Je voulais aussi surtout rebondir sur la question de l'évaluation de la qualité des soins par les patients, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté lors du débat à la Salpêtrière, et c'est un élément majeur. Et donc c'est quelque chose qu'il faut absolument changer, c'est-à-dire qu'on puisse associer les usagers, les soignants, y compris les infirmières, les aides-soignants, tout le monde aux décisions qui sont prises. Nous, la proposition qui a obtenu le plus de votes sur l'ensemble, c'était énorme, c'est-à-dire 50 votes, c'est celle qui a vraiment été, c'était la co-gouvernance. C'est-à-dire qu'on n'en peut plus de ne pas être associé aux décisions qui sont déconnectées. Comme disait Monsieur Cerretti, il y a des décisions qui sont prises qui sont...
Mais au niveau de la direction de l'hôpital?
Tout! Que ça soit au niveau du ministère, de toutes nos tutelles.
C'est pas de concertation aujourd'hui.
On ne fait pas appel à des gens de terrain. Et quand je dis des gens de terrain, c'est-à-dire des soignants qui sont sur le terrain, c'est les usagers qui, eux, expérimentent notre service public hospitalier. Encore une fois, de grande qualité. Comme le disait Monsieur Cerretti, je pense que la majorité des patients sont super contents quand ils viennent à l'hôpital. Pas super contents. Ils sont contents. Ils voient à quel point les gens se dévouent. Mais effectivement, pourquoi, à quel prix? Aujourd'hui, ça tient parce qu'on a des gens qui se plient en quatre pour pouvoir donner des soins de qualité. Donc aujourd'hui, il faut que ça puisse être évalué. Et moi, franchement, souvent, on nous dit les questionnaires de satisfaction. Mais les questionnaires de satisfaction, il faut que les patients, ils les remplissent. Vraiment, souvent, ils le font pour nous faire plaisir. Moi, c'est ce que je leur dis. Mais non, c'est pas vrai. Il y a des fois, ils voient que ça se passe pas bien pour les soignants. Ils voient que c'est difficile. Et même eux, ils en paient les frais. Donc maintenant, il faut effectivement qu'on évalue ça en fonction de l'évaluation de la qualité par les patients.
Alors, de l'expression aussi des situations de tension qui vont jusqu'à la crise et au point de rupture, c'est ce qui se passe depuis des semaines dans l'ouest de la France, en Bretagne. On retrouve en ligne de Saint-Malo Nathalie Lemaître. Bonjour Nathalie Lemaître.
Bonjour.
Vous êtes infirmière aux urgences de l'hôpital Brousset, donc Saint-Malo, Ille-et-Vilaine. Votre service est en grève, Nathalie Lemaître. Dites-nous d'abord depuis combien de temps et bien sûr pourquoi.
Alors nous, notre service est en grève exactement depuis le 14 janvier. Et donc nous, on a décidé de faire grève suite à en fait la charge de travail qui devenait impossible avec des patients qui restaient plus de 24 heures aux urgences à cause de fermeture de lit de l'hôpital. Et aussi un service qui a été conçu il y a 18 ans pour 20 000 passages annuels et on est rendu à plus de 42 000. Avec très peu d'augmentation d'effectifs depuis, avec plus de double passage annuel.
Alors, vous avez rédigé une lettre à un patient, vous décrivez la situation, loco vétus, donc cette attente, 24 heures aux urgences, c'est absolument incroyable, manque de matériel, personnel débordé, frustration. Comment est-ce que votre mouvement est perçu par la population, Nathalie Lemaître, des semaines et des semaines de grève? Qu'est-ce que vous disent les usagers?
Eh ben, on a énormément de soutien des usagers. Hein. Les gens voient bien quand ils viennent aux urgences qu'on court partout, qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'eux correctement. Ils le conçoivent bien et les gens soutiennent vraiment le mouvement. On a eu beaucoup de signatures de pétitions. Je ne sais plus exactement, on était rendu à 25 000 signatures. Voilà. Les gens comprennent et nous disent qu'on a raison de faire ça parce qu'on travaille dans des conditions qui sont assez difficiles.
Et avant d'en arriver là, Nathalie Lemaître, avant cette grève, est-ce qu'il y a eu un espace pour le débat, pour l'expression de vos revendications? Est-ce que vous étiez entendue?
Ben, non, justement, on avait déjà, avant de lancer un mouvement de grève, on avait déjà demandé plusieurs fois, sollicité des postes de soignants pour nous aider, en fait, hein, pour pouvoir essayer au maximum de faire nos soins dans une meilleure qualité. Et à chaque fois, on avait toujours un refus de la direction, nous disant que de toute façon, ils n'avaient pas de budget, que l'hôpital est déjà en déficit hein, de plusieurs millions, donc on ne pouvait pas nous accorder des budgets et des postes.
Et est-ce qu'aujourd'hui les choses ont bougé ou pas depuis que votre mouvement a été lancé ?
Oui, alors on a réussi quand même à obtenir quelques postes hein, et aussi une enveloppe pour faire des travaux, pour essayer d'agrandir un petit peu les locaux. Donc voilà, il y a quand même une petite avancée, mais bon, après, sachant que voilà, c'est pas la hauteur de ce qu'on pouvait demander. Et puis de toute façon, le problème de fond restera toujours le même, parce qu'en fait, on manque énormément de lits d'hospitalisation. Que la politique actuelle est de fermer des lits d'hospitalisation pour faire de l'ambulatoire et aussi permet de réduire beaucoup le personnel. Sauf que je vois, nous, dans la région de Malouine, hein, la moyenne d'âge est entre 70 et 75 ans. Les gens, y a très peu de gens qui peuvent aller faire de l'ambulatoire suite à une opération.
Et retourner chez eux parce qu'ils ne sont pas autonomes.
Voilà, tout à fait.
Merci infiniment pour toutes ces précisions. Nathalie Lemaître, infirmière à Saint-Malo, à l'hôpital Brousset. C'est ce que vous disiez justement à Alain-Michel Cerretti pendant cet entretien. Il y a une sorte de grand écart entre la réalité du terrain, les besoins des usagers, et dans ce cas-là, avec l'exemple précis qu'on vient d'entendre, avec l'offre de soins.
On a des coûts de soins qui augmentent mécaniquement à travers ne serait-ce que à travers l'augmentation de la durée de vie hein. Donc beaucoup de personnes qui ont plus de 85 ans qui ont besoin de soins, mais ces soins coûtent très cher, des soins qui coûtent de plus en plus cher, et des gens qui vivent de plus en plus vieux, et on veut continuer à avoir une enveloppe fermée qu'on augmente de l'ordre de 2 à 3% par an. Ces 2 à 3%, déjà, la moitié compense l'augmentation des prix naturels. Et ça veut dire que il n'y a pas de compensation liée à l'augmentation de l'âge des patients et donc du coût individuel pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que la variable d'ajustement, c'est soit le déficit, soit le dévouement des professionnels de santé. Ou alors les laboratoires à qui, et on le fait beaucoup, la baisse des prix continue des médicaments. On est arrivé à un moment, les médicaments, ils ont un prix, donc on nous les donnera pas gratuitement. La réalité, c'est que personne ne veut dire la vérité aux Français. La vérité aux Français, c'est si on veut garder un système de santé de qualité, il faut le payer. Il faut payer les professionnels de santé qui y travaillent. C'est pas admissible que après 10 ans de carrière...
Quand vous dites qu'il faut le payer, c'est par quoi ? Par l'impôt, par les mutuelles, par le privé, par le porte-monnaie ?
De toute façon, ce sont les Français qui paieront, en tout cas ceux qui habitent ce pays. Aujourd'hui, on dépense en gros 200 milliards d'euros de dépenses de santé. Ça correspond entre 10 et 11% du PIB. Il y a des pays qui vont au-delà. Bien entendu qu'il faut... Il faut revoir entièrement le système en termes de répartition de l'offre de santé sur le territoire, probablement retrouver une martingale sur le coût du soin, c'est ce que j'ai expliqué il y a 5 minutes, la perte de sens liée au fait que ça, le soin soit de qualité, qu'il est permis à la personne de reprendre une vie normale ou pas, il est payé de la même façon. Cette perte de soin, cette perte de sens, on peut la retrouver, mais dans tous les cas, on doit mettre plus d'argent sur la table. Et plus d'argent sur la table, eh bien, c'est pour les Français, considérer que leur pouvoir, dans leur enveloppe de pouvoir d'achat, eh bien, il y a une part liée aux soins qui doit être supplémentaire. Autrement, eh bien, on va avoir un service public qui va se dégrader avec des hôpitaux qui, comme dans beaucoup de pays du monde, et y compris ceux qui nous écoutent loin de la France le savent, on ne va à l'hôpital que quand on peut pas se payer à une clinique privée. C'est pas encore le cas en France, mais si on n'y prend pas garde, c'est ce qui arrivera dans les 5 à 10 ans. Moi, je ne veux pas ça. pour ne pas avoir ça, eh bien, il faut que l'effort collectif autour de la santé soit à la hauteur de nos envies et de ce que l'on en demande. Aujourd'hui, on nous dit, on a le meilleur système de santé du monde. La réalité, c'est que ça, c'était vrai il y a 10, 15 ans. Aujourd'hui, il se dégrade. Et si on ne fait pas attention, ça sera trop tard. Parce qu'une fois que vous allez, c'est comme une maladie. Si vous ne soignez pas et que vous la prenez trop tard, eh bien, à un moment, le patient meurt, quels que soient les soins que vous mettez en œuvre. Il ne faut pas qu'on arrive à ça pour l'hôpital public.
On va revenir au grand débat, à ce débat qui a eu lieu. Docteur Sophie Crozier, si vous reteniez une ou deux conclusions qui figureront justement sur cette liste, je ne sais pas si on parle de revendications ou de propositions, vous retiendriez lesquelles? Ce serait justement cette question de la co-gouvernance?
Oui, parce qu'à mon avis, c'est le point de départ de tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on associe les soignants et les usagers aux décisions de santé, à ce moment-là, on pourra aussi proposer de façon assez forte et soutenir des propositions du type, effectivement, d'augmentation de salaire, parce que c'est inadmissible d'être payé 1600 euros par mois, surtout dans la région parisienne. Je vois vraiment, enfin, moi, je l'ai déjà.
Comment se loger,
etc. Je voudrais revenir. Donc voilà, ça, c'est la co-gouvernance, parce qu'à mon avis, c'est la base de, et effectivement, je pense que et les patients et les soignants sont en capacité quand même de faire des propositions logiques. Quand on parle de la question des lits, par exemple, la question de l'ambulatoire qu'on a développé, à votre avis, pourquoi on a développé de l'ambulatoire? Oui, ça répond à certaines demandes. Mais quand on a une population qui vieillit, quand vous renvoyez des personnes âgées à domicile après une chirurgie, même une chirurgie de la cataracte, comment voulez-vous que ça soit organisé? Et encore, nous, on vit en Île-de-France. Moi, j'ai un regard mais hyper biaisé. Mais j'imagine ce que ça doit être dans des régions reculées, de se retrouver une infirmière en ville, parce qu'on n'a pas encore organisé.
Parce que même si on a une ou deux heures par jour, c'est totalement insuffisant.
Mais tout à fait. Mais on nous a proposé des réorganisations de soins sans que ça soit pensé totalement. C'est-à-dire que nous, on le sait qu'on ne pourra pas renvoyer un patient à la maison si on n'a pas organisé les soins de ville. Comment vous voulez qu'on le fasse? Actuellement, on ne sait pas comment le faire. Moi, je n'ai pas le téléphone, à part quelques-unes qui sont parties en libéral pour mieux gagner leur vie, de quelques infirmières. Mais sinon, comment je fais quand je renvoie un patient à domicile un peu plus rapidement? Bien sûr que c'est bien pour lui. Mais aujourd'hui, on n'a pas organisé ça. Donc, il y a des décisions qui sont prises uniquement pour des raisons économiques. Et le deuxième point sur lequel il faut absolument revenir, mais ça va être dans la loi santé, c'est revoir la question de la tarification à l'activité. Il faut voir qu'effectivement, nos dépenses de santé, elles sont liées aussi à une augmentation d'actes qui sont parfois totalement inutiles pour les patients, ce qui est un scandale. Je suis désolée, mais il faut le dire aussi aux Français. Or, aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Si on faisait le juste soin, et le juste soin, c'est ce dont le patient a besoin réellement pour une amélioration, non pas d'un problème aigu, mais de sa santé globale, c'est-à-dire qu'il y a des situations, notamment les situations de fin de vie, où il n'est pas question de corriger telle ou telle difficulté, mais d'être d'accompagner et de répondre aussi à ce que le patient veut. Si le patient ne veut pas un soin, il ne faut pas lui imposer. Donc tout ça, on pourrait faire des économies. On en a plein des idées. Hein. Franchement, sincèrement, je pense qu'il y en a. Donc c'est extrêmement complexe, M. Serretti l'a dit. Je comprends très bien que ça soit complexe, mais il me semble qu'aujourd'hui, si on avait un peu plus de collectif dans les décisions, et franchement, encore une fois, ce qu'a montré ces débats, moi j'ai trouvé ça hyper, je suis très positive, mais hyper fructueux, c'est que justement ces échanges ont permis aussi de faire naître des idées et vraiment des propositions.
De la proposition, pas que de la critique négative.
Exactement, et quelque chose de très positif pour pouvoir préserver notre système de santé auquel on tient tous, citoyens et soignants.
Docteur Bertrand Galichon, s'il fallait faire une ou deux propositions pour améliorer la situation aux urgences, vous diriez quoi? Sortez de votre chapeau.
Alors, j'aurais deux petites propositions tout à fait basiques, mais qui me paraissent complètement essentielles. Je pense qu'effectivement, le juste soin passe par la collégialité de la décision prise pour le bénéfice d'un patient. C'est le premier point. Le deuxième point, extrêmement basique, à l'heure actuelle aux urgences, on est en train de réfléchir à la prise en charge du patient accompagnant présent. Alors, il se trouve que pendant mes études et juste après mes études, j'ai pu faire quelques tours à l'extérieur, en particulier en Afrique de l'Ouest et en Extrême-Orient, et je me suis rendu compte là que les familles sont présentes. Pour la raison toute bête et toute simple, c'est que sur le plan économique, eh ben, il faut apporter
à manger quand on est hospitalisé,
patient, ouais,
il n'y a pas de cantine.
Il faut lui apporter son change, il faut le surveiller, il faut le soulager.
Même y compris les draps.
Voilà. Et donc, Aux urgences de la Riboisière, où on n'est pas du tout dans la même situation que qu'à Saint-Malo, où ils ont une proportion de personnes âgées importante. Nous, on a la moyenne d'âge la plus faible, au moins des services d'urgence de l'assistance publique, mais on a exactement les mêmes difficultés. Exactement. Le lit qui est introuvable, l'infirmière qui est surchargée, le médecin qui est absent, et tout le monde est derrière un ordinateur. On pourrait longuement parler de l'exclusion et de la fracture numérique, qui est un vrai, vrai sujet. Et donc, nous, aux urgences, voilà, le patient, son accompagnant, aux urgences, jusqu'où l'associer au traitement. On l'a bien vu, et Sophie en parlait tout à l'heure, la fin de vie, le débat sur la prise en charge de la fin de vie a introduit cette question.
Alain-Michel Seretti, les usagers, une ou deux propositions, bien sûr, il y en a plus, mais s'il fallait en retenir des priorités.
Oui, en tout cas, moi j'ai consacré 20 ans de ma vie à participer à la co-construction du système de santé. Je pense que des représentants d'usagers formés, compétents, dans les instances de direction des hôpitaux publics, ça mettra de très grandes difficultés au pouvoir public de faire passer des réformes scandaleuses. Parce qu'il y aura là une vigie citoyenne, mais il faut qu'elle soit compétente, parce qu'autrement elle se fait enfler. On lui balance des informations qu'elle comprend pas, et elle, comme elle les comprend pas et qu'elle ose pas dire qu'elle les comprend pas, ben elle va les accepter. Donc ça se retourne contre nous, c'est-à-dire que ça devient finalement une espèce de pis-aller qui consiste à dire on a pris cette décision, mais il y avait un représentant d'usager qui était là, il a rien dit. Donc ça, il n'en faut pas. Il faut des représentants d'usagers qui soient
informés,
compétents et formés. Et rappelons que ce sont des postes de bénévoles, donc ça se trouve pas sous le sabot d'un comme ça. Hein. On a vraiment un sujet de recrutement. Il y a 1500 hôpitaux publics à peu près, ou 1000. Ça nous fait 2000 bénévoles à former et à trouver. C'est pas facile. Donc une fois qu'on a dit ça, après, dans la vraie vie, c'est pas facile à mettre en œuvre. Deuxième chose, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, aller très vite et beaucoup plus loin qu'on ne l'a fait sur les indicateurs de qualité tels que vécus par le patient d'un soin. Et ça, c'est ça qui doit construire la moitié, je dis bien la moitié. Si une prothèse de hanche coûte 300 euros à poser, eh bien, il y a 150 euros consacrés à la question de savoir comment le patient a vécu cette pose de prothèse et comment il remarche derrière. Parce que, in fine, on fait pas des soins pour faire plaisir aux professionnels de santé ou pour faire vivre une administration dont on n'a pas forcément besoin à 100%. On fait des soins, on produit des soins pour permettre à des malades de reprendre une vie normale. Et si on leur pose jamais la question de savoir ce qu'ils en pensent, eh bien on fait des soins dans le vide totalement en termes de compréhension et de sens.
Et on sort donc de l'acte pur d'Elphine Soubeste. À vous le mot de la fin. Infirmière, on parle bien sûr de formation, on parle de surmenage, on parle de rémunération. C'est quoi pour vous l'essentiel aujourd'hui pour améliorer le sens de votre travail et la qualité?
Moi, ça sera la reconnaissance déjà, la revalorisation pécuniaire, parce que c'est quand même, quand on fait un métier, on a besoin d'être payé. Donc c'est important d'être payé à sa juste valeur. Et puis, effectivement, comme disait ma collègue neurologue, c'est important aussi de pouvoir faire des débats en équipe pluridisciplinaire et avec les usagers pour améliorer les choses.
Alors pour toutes ces décisions, tous ces choix qui vont être énoncés, mis sur le papier, les premières réponses du gouvernement ne sont pas attendues avant le mois d'avril. Hein. Ce sera donc une question de semaine. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Débat bien sûr trop court parce qu'il y avait encore énormément de choses à dire. Quelle place pour la santé dans le grand débat en France? Merci à vous, docteur Sophie Crozier, neurologue au service des urgences cérébrovasculaires de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci à vous, Delphine Soubeste, d'être venue ici dans les studios de RFI, infirmière en chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou, toujours à Paris. Docteur Bertrand Galichon, praticien hospitalier aux urgences de l'hôpital Lariboisière. Et à vous, Alain-Michel Seretti, président de France Assos Santé, Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise, la prépare. C'est tout ça, Maquée, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, nous parlerons des addictions. Émission préparée en partenariat avec le magazine panafricain Votre Santé, vos questions au 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les brillants entrepreneurs, profitez d'une assurance épargne et réalisez vos projets en toute assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.